Nous avons aujourd'hui un évangile qui peut sembler naïf, tellement avec les siècles et jusqu'au 20e et 21e siècle, son contenu a été comme perdu. Et son union avec l'épître de Saint Paul est particulière, car aujourd'hui, il nous est demandé de prêcher sur la pureté, sur la vie corporelle en union avec la vie spirituelle. Et nous sommes dans un monde contemporain, comme on dit, un monde post-moderne, qui a dépassé cela et qui considère, surtout bien sûr en Occident, que la vie de couple doit être particulièrement libre et détachée de la famille, et particulièrement de la famille nombreuse. C'est un thème qui est l'objet d'une querelle quasi définitive entre l'Évangile, entre la morale catholique et le monde, un thème parfois trop abordé peut-être, mais qui est d'une importance toute particulière lorsque nous méditons sur des messages comme celui qui nous a été transmis par le magistère, par l'enseignement de l'Église en réponse à toutes les découvertes scientifiques sur la conception, sur la possibilité d'enfanter et même par rapport à la contraception, le fait de ne pas avoir d'enfant et des moyens de ne pas en avoir, les techniques qui nous permettent d'en avoir en dehors de l'acte naturel de l'homme et de la femme. Ce magistère des papes qui nous ont précédés a été plus particulièrement défendu par un homme, le cardinal Carlo Caffara, qui nous a quittés au début de ce mois, le 6 septembre, il y a 3 jours. Cet homme qui a toujours défendu la foi de l'Église, et plus particulièrement dans sa morale, a été évêque de Bologne et surtout un grand professeur de théologie morale. Un homme pour qui cette vérité, toute simple et en même temps exigeante, est une lumière dans ce monde actuel, une lumière que l'Église catholique défend toute seule. Ainsi donc, ce matin, sans être trop moraliste, il nous faut bien ressaisir ces vérités. Tout d'abord, par la vie humaine dans ce qu'elle a d'engagement lorsque nous nous lançons dans des promesses, nous nous lançons dans l'accueil de la vie possible et surtout l'état d'esprit qui doit être le nôtre, même si nous sommes célibataires. Et le cardinal Caffara, en tant que successeur des apôtres, avait choisi ce célibat pour le royaume de Dieu. Alors comment peut-il nous parler de famille et d'enfants? Eh bien, tout d'abord, cette vérité, elle est naturelle. Dieu est esprit, il a créé les anges par myriades, c'est-à-dire milliards de milliards. Il y a un très grand nombre d'anges. Ces anges ont admiré leur propre nature. Les anges se voient les uns les autres, les esprits se voient et mieux qu'avec des yeux de chair, même si l'œil est un appareil extraordinaire qui décrypte des millions de couleurs et 3 dimensions, les esprits se voient mieux qu'avec des yeux. Et voilà que Dieu a voulu nous créer union d'une âme, d'un esprit immortel avec ce corps tiré de la matière et tiré du monde animal. Et notre intelligence comprend cette vie. Et de tout temps et dans tous les peuples, nous savons bien que cette différence qu'il y a dans les corps est liée à la multiplication de l'amitié, de l'amitié. Le mariage, c'est la multiplication de l'amitié, nous dit saint Thomas d'Aquin. Cette amitié, cet amour humain. Oui, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils ne feront plus qu'une seule chair, car l'union humaine est ouverte sur cette possibilité d'engendrer. Et quand un homme et une femme s'unissent et se marient, se promettent l'un à l'autre, eh bien c'est une épreuve particulière de ne pas avoir d'enfants qui viennent. Cette solidarité de l'être humain qui adopte les enfants des orphelins ou des d'enfants abandonnés est un choix, un choix particulier qu'on ne peut pas imposer à un couple. Car en effet, cette force de cette nature humaine veut continuer la vie, transmettre cette vie physique et corporelle. Seulement, l'enfant humain appelle une éducation sur des années et des années. Il dépasse le petit des animaux. C'est tout particulier à notre nature. Un enfant rappelle à son père et à sa mère qu'ils se doivent d'être ensemble et de vivre ensemble et pendant des années pour assurer leur présence et leur amour pour cet enfant. Ainsi, l'indissolubilité du couple, de l'union humaine, du mariage humain est aussi profondément liée à la présence d'un enfant. Même s'il y a véritable mariage et véritable fusion et amour entre un homme et une femme qui n'ont pas d'enfant. Voilà que notre nature nous dit, et nous dit longtemps, puisque dans le mariage, il y a des amours qui naissent parfois entre un veuf et une veuve, et qui renouvellent un mariage sur cette terre. Alors même que l'enfant n'est pas possible, eh bien, nous demandons encore que ça soit un homme et une femme. Car qui dit cet amour spirituel dit aussi un amour corporel et l'acte naturel entre l'homme et la femme. Et voilà une vérité que nous ne pourrons ne jamais abandonner. Lorsque dans Humanevitae, le pape Paul VI a le courage et saisi par l'Esprit Saint de dire que jamais nous ne pourrons accepter de rejeter l'enfantement, de rejeter la possibilité de l'acte naturel d'être ouvert à la vie. Il ne dit pas que c'est au nom de l'Évangile, mais au nom de la loi naturelle, au nom de cette nature que Dieu a créée. Et voilà que le cardinal Caffara, dans sa défense de la loi naturelle, disait bien, à la suite du Christ, que au commencement, il en était ainsi. Le mariage, l'homme, la femme, le pardon, l'union, l'amour, le fait même de dépasser la jeunesse d'un corps, la beauté d'un corps, alors même que de nos jours, il nous est présenté partout et dans un piège particulier sur Internet, la beauté des corps, toutes les possibilités humaines, mais sans mariage, sans union, sans amour spirituel. Eh bien, ce cardinal, avec d'autres, a défendu humblement et simplement ce mariage qui a été surélevé par l'amour du Christ, surélevé par sa présence aux noces de Cana, où la Vierge Marie, la nouvelle Ève, lui demande de donner son sang, le vin, l'eau transformée en vin, le vin transformé en sang sur la croix, au saint sacrifice de la messe, c'est la bénédiction du mariage. Ce sacrement tout particulier dans le baptême qui fait que nous nous unissons pour traverser les années. Voilà pourquoi, lorsque l'Institut Jean-Paul II pour la famille a été créé, Le cardinal, et à l'époque Monseigneur Caffara, avait demandé à Sœur Lucie de prier pour cet institut, comme pour l'Académie pontificale pour la vie. Et à son étonnement, Sœur Lucie a pris la plume et, par une permission divine, une lettre de Sœur Lucie a traversé les permissions humaines. Et une lettre est parvenue au cardinal Caffara. Et il l'a lue et il l'a fait lire à son secrétaire, qui est maintenant Monseigneur Mélina, qui est prêtre et prélat. Et sa secrétaire l'a lue et l'archiviste l'a lue. Et alors que je parlais avec lui il y a un an, avec Monseigneur Mélina, il me disait que dans les archives de l'Institut, comme cela avait été déposé à l'Université du Latran, cette lettre, lorsque les archives et les travaux dans les bâtiments avaient été terminés, ces archives ayant été transférées à nouveau, cette lettre n'avait pas été retrouvée. Et pourtant, le cardinal Caffara, lors d'une conférence, lors d'une allocution, a parlé de cette lettre. Sœur Lucie lui disait que l'ultime combat entre le royaume de Dieu, le royaume du Christ et Satan serait sur la famille, et que ceux qui auraient à défendre le mariage auraient beaucoup à souffrir. Eh bien, le cardinal Caffara a beaucoup souffert pour cette famille. Et en quelque sorte, alors qu'il a donné son message, qu'il a été envoyé par Dieu comme un prophète, eh bien le Seigneur l'a rappelé à lui, comme il a rappelé le cardinal Messner en début juillet, alors qu'il priait son bréviaire et qu'il est mort, et que son bréviaire, ses psaumes, ses prières de l'Église est tombé de ses mains par terre. Et comme le pape Benoît XVI le disait, cet homme de prière, le cardinal Messner, est mort en priant. Eh bien, le cardinal Caffara, la veille même de sa mort, répondait encore à des messages. Et le matin même, on l'a retrouvé paisiblement endormi. Endormi comme un bon serviteur qui a servi son maître. Alors nous, quelle est notre mission? Notre mission est d'espérer dans la grâce. Notre mission est de prier. Et notre mission dans ce centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, c'est de prier le chapelet. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un péché de ne pas prier le chapelet. Mais c'est tellement urgent et c'est tellement important. Avons-nous un chapelet sur nous? Avons-nous un chapelet chez nous? Est-ce que nous ne pouvons pas compter sur nos doigts au moins pour dire le « Je crois en Dieu », le « Notre Père », trois « Je vous salue Marie » et un chapelet quotidien, pour l'offrir pour le monde, pour l'offrir pour que les âmes puissent avoir une vie belle, spirituelle, et quelles que soient leurs épreuves, toujours prendre les choses en bonne part, pour ne pas trop se soucier de l'argent, de la prospérité, puisque Dieu nous le promet. Alors, il est vrai que ça semble un peu naïf, et que les hommes contemporains et de ce monde post-moderne nous disent que c'est folie d'avoir trop d'enfants, ou que c'est inutile de prier, puisque Dieu nous laisse à nous-mêmes, puisque les loyers sont impossibles à Paris et en région, et que d'avoir des enfants, c'est impossible de se loger, et pour des raisons d'argent, pour des raisons de soucis matériels, il nous est opposé à nous, prêtres, qui sommes dans des logements de fonction, qui sommes honorés, qui avons autant d'argent que nous voulons, nous qui recevons tout, la nourriture, le vêtement, et qui nous n'avons aucun souci, nous pouvons mettre sur les autres des poids que nous ne soulevons même pas du petit doigt, puisque nous n'avons pas de famille. Oui, mais malheur aux prêtres qui ne donnent pas leur vie entièrement et qui ne donnent pas leur temps entièrement pour l'amour de Dieu, pour la consolation spirituelle de toutes les âmes, et qui n'ont pas de multiples enfants, que ce soit des petits bébés ou de grands vieillards, qui ne donnent pas leur vie comme un père. Malheur à ces prêtres stériles qui sont des célibataires endurcis. Oui, mais le cardinal Caffara, lui, toute sa vie, a donné son temps pour des enfants, et il a été le père d'une multitude. Alors que nous ayons cette confiance dans l'amour de Dieu, dans le regard du Père, dans la présence de son Fils, nous qui voulons le connaître, nous qui voulons le rencontrer à chaque fois que nous nous présentons pour le recevoir dans la Sainte Hostie. Oui, que la Vierge Marie nous donne cette profonde foi, cette profonde espérance et cette charité qui pourrait toucher ce monde. Même si parfois nous nous disons que cette décadence est sans retour. Mais pour terminer, parce que nous manquons d'espérance, est-ce que nous voulons un archevêque de Paris qui soit un saint? Il en est parmi nous qui ont commencé un trentin. 30 jours de suite, ils vont prier jusqu'à la fête de Saint-Denis, le 9 octobre, pour avoir un saint évêque à Paris, un saint archevêque. Et nous, est-ce que nous faisons de la politique ecclésiastique? Est-ce que nous pensons, ça serait peut-être celui-ci, ça sera peut-être celui-là? Mais est-ce que nous prions vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est Dieu et qu'il peut nous donner un saint, qu'il peut nous donner un homme qui sera un père pour ses prêtres et pour les baptisés de Paris, mais aussi pour tous les autres, qui les mènera à la conversion en confessant un Dieu qui s'est fait homme pour tous ceux qui viennent sur Paris, pour leur proposer la foi catholique qui a forgé notre France, notre Europe et combien de pays dans le monde. Alors ayons cette foi, cette espérance et cette charité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.